Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous le savez, ici on aime bien sélectionner des projets, des applis que les gens ne connaissent pas trop. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Parce que depuis une année, on commence à voir un peu une maturité de toutes ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, suffisamment pour que ça commence à devenir utilisable et intéressant pour le commun des mortels. Dans les applis que je vous ai sélectionnées, il y a à la fois des services, des applis que vous pouvez installer dès maintenant sur votre Mac pour gagner du temps, ainsi que des outils un peu plus avancés si vous voulez pousser le curseur. Si vous êtes dans la team des gens qui veulent, par exemple, commencer à améliorer des modèles vous-même, à faire des fine-tuning, des choses comme ça. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Mais voilà, je vais vous présenter 4 projets différents qui, je pense, vont vous faire halluciner. Le premier, il s'appelle Clap. Clap, c'est hyper simple. C'est un service web à qui vous donnez une chaîne YouTube. Peut-être que tu en as déjà entendu parler.
Je te laisse présenter, je t'en parle après.
Vous lui donnez une chaîne YouTube et à partir de ça, il vous crée des formats verticaux, tout seul de A à Z. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais déjà vu des démos avec des petites bribes, tu vois, le fait de découper une vidéo en petits extraits ou le fait de rajouter automatiquement des sous-titres. J'avais vu toute cette petite brique, mais le côté vraiment de A à Z, avec un ingrédient secret dont je vous parle juste après, est assez impressionnant. Et comme vous voyez, on peut voir dans les démos, on peut voir du Hugo Décrypte. Je ne sais pas c'est parce qu'il est vraiment client ou si c'est juste leur démo.
Je pense que c'est leur démo, mais en vrai,
c'est possible. Hein, c'est des Français qui font ça. Et ben voilà, Benjamin, peut-être que tu.
Ben en fait, ils sont hyper cool. C'est deux Frenchies qui font ce truc-là. Depuis que je me suis lancé sur mon SaaS et tout, on est en contact tout le temps. On s'envoie des messages tous les jours et tout. Et je suis un power user de leur truc de clap, en fait. Parce que le podcast qu'on a avec William, là, l'ascenseur, après, moi, chaque semaine, je l'envoie dans la moulinette de clap, comme ça. Et il m'isole genre 10 clips. 10 potentiels sujets classés par ordre de viralité, en fait, parce qu'il analyse tout le transcript, il chope des passages viraux, en gros, et il me les sort comme ça. Après, t'as un éditeur, si tu veux rajouter un peu d'avant, un peu d'après, enlever quelques mots, etc., tu peux tout faire. Et c'est trop, trop bien foutu. Et pareil, je leur ai suggéré des tonnes de features en tant que power user. Je leur disais, est-ce que vous pouvez rajouter ci, ça et ça et ça? Et ça, c'est trop bien quand c'est des gens accessibles comme ça, c'est que les features que tu demandes, elles sont incluses dans le
Elles sont vraiment implémentées au bout d'un moment.
Ça fait trop plaisir.
Et comme tu dis, ce qui est vraiment nouveau, enfin, voilà, il n'y a aucune originalité dans chaque brique indépendante. L'originalité, elle est d'avoir un truc de A à Z qui marche. Ou c'est pas juste un truc un peu bancal, tu vois, qui marche une fois sur deux.
Et ça marche vraiment bien.
Ils ont une sorte de sauce secrète.
Ouais.
Ou comme tu dis, ils ont en fait, ça se voit qu'ils connaissent bien les codes des plateformes, etc. Et ils ont probablement des prompts secrets qui leur permettent d'isoler des petits bouts de ton podcast, de ta longue discussion, et de savoir que y a un potentiel de viralité sur des plateformes type de TikTok ou Instagram Reels.
Je vais vous dire la meilleure feature qu'ils ont ajoutée dernièrement, qui est vraiment, je trouve, la clé de leur truc. Effectivement, ils vous génèrent ces dix sujets éventuels, comme ça, que vous pouvez prendre ou pas prendre. Mais ils ont rajouté un truc aussi, générer un clip par rapport à ce que vous vous souvenez que vous avez dit, en fait. Donc tu lui dis, j'ai parlé de ça vite fait dans le live, j'aimerais bien avoir ce passage. Et lui, en fait, il va le retrouver.
À débat.
Et il va te faire le truc. Parce que parfois, tu te souviens que t'as parlé d'un truc pendant l'émission. Tu lui dis, vas-y, retrouve-moi ce passage, boum, 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 il te fait le truc, t'as ton clip qui est fait en 2 secondes, et là, tu fais, stylé. Ah ouais.
Eh ben, moi, je vous propose quelque chose, c'est qu'on fasse un test. Un test en direct.
Oh là là, on n'a pas fait ça depuis 2018.
Wow, un test en direct, mais je vous dis, leur tool marche trop bien. Moi, j'ai jamais eu de problème, donc
on va pouvoir vérifier.
Allez.
Moi, ce que je trouve génial, c'est que ça s'adresse à un problème où c'est très chiant de faire ça.
Ouais, c'est hyper chiant.
Même les monteurs et tout, ils en ont... Enfin, c'est chiant. Ça fait plaisir à personne de monter des clips à partir d'un truc très grand, donc c'est cool.
Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, underscore, nous ne faisons pas de TikTok.
C'est vrai ça. Parce mais on se l'est fait voler. Hein.
On a la gigaflemme, exactement.
Du coup, tout va bien. On est quand même disponible, mais c'est pas nous.
Du coup, ce qui se passe, c'est que si vous scrollez TikTok, vous verrez des extraits de cette émission, potentiellement. Mais ce n'est pas nous qui les avons montés. C'est des gens qui nous l'ont volé et qui ont fait les montages. Et voilà, qui gagnent un peu d'argent, monétisation de TikTok sur notre dos. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que ça n'est pas beaucoup d'argent.
Du coup, nous. De toute manière, avec TikTok.
Ouais, vraiment. Non, mais honnêtement, moi, à une époque, on s'est demandé est-ce qu'on essayait de faire fermer ces chaînes, etc. Et en fait, franchement, on s'en fout un peu. J'ai même envie de le dire, si vous voulez en faire.
Tu sais que c'est Hardis qui a dit ça.
Pas, mais voilà.
Au début, il se battait, il a fait, mais en fait, faites-le.
Ouais, voilà. Si vous voulez monter des extraits, amusez-vous. Au pire, nous, c'est pas si grave, ça fait un peu connaître l'émission. Et comme je disais, c'est pas un manque à gagner de fou furieux. Donc, on va se consoler. Sauf si on se met à devenir client de Clap et qu'on monte nos propres émissions. Est-ce que, Thiel, on serait en mesure de faire un test?
Absolument pas.
Ah. Ah. Pour quelle raison?
Il faut se log et tout.
Ouais.
Je le fais, continue à parler.
On meuble.
Alors juste, il demande si c'est sponsor, c'est pas sponsor.
C'est pas sponsor, non, c'est pas sponsor, pardon.
Aucun des outils que tu as présentés.
Des outils que je viens de présenter, n'est sponsor.
Et mais moi, j'étais pas au courant que vous alliez parler de ça. Enfin, ouais, c'est une coïncidence.
Par contre, toi, qui tu ne connais pas? Vraiment, on te parle d'un truc, tu connais les gens.
Oh bah attends, il y a plein de fois où vous parlez de trucs, je suis là en mode, mais de quoi il parle, putain, de quoi il parle. Mais dans ces moments-là, je suis discret, mais par contre, quand je connais, je suis là, je prends
toute la place. Incroyable.
En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est à la fois la première démo que tout le monde a imaginé. Genre, c'est le truc évident, ouais. Faire du montage automatique et tout. Mais le concrétiser réellement et que ça marche bien 99% des cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour tous ceux qui l'ont un peu essayé. Et donc, là, c'est pour moi un des premiers produits que je vois de bout en bout qui est vraiment convaincant à ce point et qui peut vraiment faire gagner du temps.
Et pour tout vous dire, ils ont de la concurrence. Il y a d'autres trucs qui font ce process de A à Z aussi. Mais sans déconner, je les ai tous utilisés du coup parce que je suis curieux de manière générale. Et à chaque fois, c'est eux qui te sortent les résumés, leurs ingrédients secrets, comment ils ont fine-tuné leur prompt ou quoi que ce soit. C'est eux qui te sortent les meilleurs scripts, les meilleurs sous-titres, les meilleures transcriptions. Enfin, qualitativement parlant, c'est eux qui prennent le truc haut la main et ces deux petits Frenchies, ça fait trop plaisir.
Et ça coûte combien? Tu sais plus.
C'est, je sais pas, 29 ou...
C'est une vingtaine de dollars par mois. Vous voulez le faire sur la chaîne Underscore ou Micode?
Underscore, ça s'y prête mieux parce qu'il faut que ce soit plutôt podcast. Ça a plus d'intérêt parce qu'on a déjà un truc super monde. Ah, quoique. En fait, c'est toi qui sais ça, Benjamin. Qu'est-ce qui s'y prête mieux, Micode ou Underscore?
Underscore, c'est mieux sur les podcasts. C'est mieux sur les...
Encore, c'est peut-être même un peu trop monté, d'ailleurs. Ok.
Attends, mais là, t'as pris juste... T'as pas mis une vidéo, là?
Il faut prendre la chaîne.
Il faut prendre une vidéo en particulier.
Donc... attends.
On gueule pas.
Non, mais il fait quoi, là, le gars? Oh.
Ce que je vous propose, c'est de prendre une vidéo de la chaîne YouTube. Laquelle on choisit? C'est vous, maintenant, vous choisissez ce que vous voulez.
Non, mais il faut... Alors, laquelle on choisit?
Réflexion.
Rabbit R1, non? C'est le...
Ah, je crois que j'ai essayé et que ça marchait pas hyper bien.
Ok.
Il faut il faut une discussion où il y a eu des courts extraits qui peuvent se prêter à ça, quoi.
Bah oui, en fait, faire ça sur une vidéo qui est déjà montée, etc., c'est pourri. Mais par contre, faire ça sur un podcast ou un truc comme ça, c'est sur ce genre de truc que ça marche le mieux, ouais.
Je vous propose de prendre...
La deuxième, ouais, je
sais pas. La vidéo, non, avec le lycéen qui a construit son propre téléphone.
Ouais, très bien ça. Oui, c'est plus idée. En mode podcast.
Trop bien. Parce qu'à mon avis, il va pouvoir trouver des extraits d'un téléphone en particulier ou des choses comme ça. Vu que là, c'est un concept un peu morcelé, il y a peut-être plus de chance. Donc là, on colle le lien de la vidéo et hop, il trouve instantanément la bonne vignette, etc. Et nous, on va tout cocher. On veut des shorts. Non, ça c'est l'inverse.
Ouais, non, laisse tout cocher, ouais, c'est bien.
Et on lui dit que c'est du français, mais max une minute de durée. Et généré.
Là, j'imagine les deux gars. J'espère qu'ils ont des meufs et qu'ils sont avec leurs meufs ce soir. Ils sont pas devant la démo parce qu'ils doivent. Ils doivent être en sueur. Mais vous rendez compte?
Ils disent si tout le monde va sur le site, ça fait planter le site. Il y a plus rien qui marche. C'est compliqué.
Et c'est parti. Et là, nous, pour l'instant, on prend un petit cocktail. On attend, quoi.
Et on se dit qu'on n'est pas en train de pourrir la vie à un monteur parce que c'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure,
les
pires trucs à éditer, ça à faire.
Ça, c'est bien une excuse de quelqu'un qui utilise de l'IA. Non, mais c'était du travail pénible.
C'était pénible de ouf.
Non, mais
c'est vrai.
On diminue la pénibilité du travail, là.
plan.
Oh, c'est un
il avait prévenu qu'il, il m'a prévenu qu'il allait le faire un jour. Moi, je propose qu'on, a, qu'on regarde cette loading bar quand même. C'est quand même, c'est quand même important.
Ouais, ça
sinon, peut... alors, attends, voyons, je regarde quand même.
J'allais dire un truc, sinon tu passes au deuxième et on revient plus tard.
Ouais.
Ah ouais, on peut faire ça.
Ouais.
Ok. Pendant que c'est en train de faire la, pendant que c'est en train de faire la génération, je vous propose de passer à l'appli suivante, qui pour le coup est installable en local sur votre machine. Elle s'appelle Better Dictation. Meilleure transcription. Ok.
Ok.
Alors pour le coup, pareil, c'est une appli qui est payante, mais qui, elle coûte quelques euros. Je parie que à la suite de cette vidéo, quelqu'un va refaire la même chose en open source gratuitement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça
donc
va arriver.
T'es en train
bientôt.
De dire que t'es en train de tuer un business ce soir.
Non, mais c'est une petite appli faite en un week-end, tranquille.
Mais c'est une appli, non. C'est pas un abonnement, c'est juste.
Exactement, c'est un one shot. La raison pour laquelle je vous la présente, c'est que c'est un truc qui peut s'installer par monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment hyper simple d'accès. Et ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur l'envoi de vos messages, notamment de vos messages privés. Si vous êtes sur votre Mac, vous avez le choix entre taper au clavier vos messages ou alors utiliser la dictée vocale, mais personne ne fait ça parce que ça marche très mal. Voilà, tout ce qui est mots un petit peu complexes, langage, métier, globalement, c'est pas ouf. Et donc, on a pris l'habitude de ne pas utiliser ça. Sauf que un truc que moi j'ai réalisé, c'est que sur des longs messages, genre tu prends à partir de 4-5 lignes, à l'oral, tu peux mettre jusqu'à 5 fois moins de temps à composer ton message qu'à l'écrit. Faut vraiment se rendre compte qu'il y a une différence énorme entre ton temps de dictée et ton temps d'écriture. Même si t'es le roi du clavier, tu vois.
Oui, bien sûr.
Or, on sait que depuis, on a des modèles de transcription type Whisper V3 qui sont hyper quali. Mais jusqu'à présent, voilà, pour les installer, pour avoir un workflow, une intégration agréable dans tes messageries, dans tes DM Twitter, dans ton Discord, ton Slack, tout ça, c'était un peu galère. Jusqu'à Better Transcription. Vous l'installez sur votre Mac. Peut-être que tu peux nous trouver le site pour voir quelques images. Ou alors... oui, parce que j'ai fait une démo après... Bon, monte d'abord juste le site, pardon.
J'en profite pour remercier Basti pour le raid.
Merci pour le raid. Monte juste la homepage si tu la trouves et sinon, le petit screen rec que j'ai fait.
Alia.
Je veux pas vous spoiler. Maintenant, je veux pas vous spoiler parce que c'est le visuel qui compte. Voilà, parfait. Le principe est hyper simple. Vous allez avoir un raccourci clavier que vous pouvez maintenir en même temps que vous parlez,
okay.
pour faire une transcription.
Comme
c'est
Siri,
tout.
Quoi.
Et en fait, c'est ce qui est cool, c'est que c'est un push-to-talk. C'est-à-dire que t'es en train de répondre à un DM sur n'importe quelle appli, tu maintiens ton raccourci clavier et tu te mets à parler. Et à partir du moment où tu as retiré ton doigt, il commence à transcrire ton message. C'est vraiment très très rapide. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre un petit listening avec 3 petits points. Peu importe là où est ton curseur, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment n'importe quelle appli, n'importe quel endroit.
Smart.
Ça écrit « listening », 3 petits points, et tu le retires, ça affiche ta transcription. Rien ne vaut une démonstration pour vous montrer comment c'est. J'ai enregistré ça littéralement il y a 2 minutes, c'est pour ça que j'étais en retard tout à l'heure, et je vous propose de regarder ça avec du son, si possible. Ceci est un test. Je suis actuellement en train de rédiger un très long message qui m'aurait pris vraiment très longtemps à écrire. Et cette émission vient de commencer et je vois qu'ils sont en train de meubler pendant que moi, je prépare mes illustrations. Voilà. Ce message est bien long. 1, 2, 3. Tada !
Dinguerie !
Une dinguerie.
C'est trop bien.
Ouais, c'est bien, ouais.
Et regardez la qualité.
Je crois qu'il y a pas une. Enfin, je vois pas une faute là.
Il y a pas une faute. Et là, vous avez vu, il y a eu un petit temps de latence. Ça vient du fait que j'utilise le plus gros des modèles. Si vraiment vous êtes quelqu'un de pressé, vous pouvez utiliser un modèle plus petit, Whisper Medium par exemple, ou des choses comme ça. Là, moi, je veux que mes messages ils soient pixel perfect, ou mes mails parce que c'est trop bien pour des mails.
Ah oui, donc plus ça prend du temps, plus c'est efficace. Et... Ok, ouais. j'ai
exactement. Okay. Et voilà, c'est tout simple. Il n'y a, rien de plus à expliquer. Ça marche en local sur votre machine. Il n'y a pas besoin d'Internet. Exactement.
Du coup, le Whisper est téléchargé.
Il n'y a pas besoin d'Internet.
C'est génial.
Ça marche sur n'importe quelle appli. C'est
combien de gigas le modèle?
4 gigas peut-être ou quelque chose comme ça.
C'est trop bien.
J'ai vu Coming Soon to Windows en plus en haut de leur site.
Ah bah très bien.
Donc
bah, ouais.
Là, c'est sur Mac, il y a marqué bientôt sur Windows.
Je vous le disais, celui-là, il est payant, mais vraiment, le concept n'est pas si complexe à coder. Donc,
$24
Si quelqu'un.
Ça va.
$24 à vie, il y a marqué.
Ouais, c'est ça. Si quelqu'un veut la réimplémenter, n'hésitez pas.
Ouais, et même.
Non, ça va. Hein.
Ça va, hein, c'est
bah
pas
oui,
cher.
Mais oui, mais on est d'accord, c'est pas un abonnement, ça va.
Mais au-delà de juste t'aider à écrire des mails et tout, parfois, écrire un message, tu vas ordonner ta pensée d'une manière.
Niveau créatif, tu veux dire. Dis,
il faut que la personne comprenne ce que je vais lui dire, en fait. Mais il y a des fois où moi, ChatGPT, j'utilise beaucoup cette fonction speech to text. Avec ChatGPT, je lui donne toute mon idée. Sans réfléchir. En plus, je sais que c'est une machine qui va recevoir mon merdier. Donc, en fait, je lui dis tout à l'oral. Je lui décris tout. C'est pas ordonné, c'est pas bien fait, etc. Mais lui, il remet tout en ordre. Il a tout compris. Et c'est une manière de poser une réflexion différente que juste de l'écrire, en fait. Ça te fait vraiment penser différemment, je trouve.
Surtout que là, comme vous l'avez vu, toutes les virgules sont bien placées.
Oui.
Il n'y a pas une faute d'orthographe.
Ouais.
Tu gagnes aussi un temps fou à ce niveau-là. Et ce que quelqu'un a relevé dans le chat, c'est qu'il avait tenté de coder la même chose il y a un an,
ouais.
Mais que pour une phrase, ça prenait une minute de faire la transcription.
Ouais.
Et là, maintenant, depuis cette époque-là, on a eu une amélioration des outils et une accélération matérielle, etc., qui, même sans GPU, permettent de faire ce genre de choses en quelques secondes sur n'importe quelle machine.
Je serais curieux
bien.
De... Moi, j'ai un MacBook Intel,
ouais.
J'ai pas les M1. Je serais curieux de voir si ça fonctionne, je suis pas sûr.
Je pense que ce sera plus lent.
Ça sera évidemment plus lent, mais...
Mais je pense que ça marchera quand même. Tu nous diras.
Autre petit cas d'application, en ce moment, je lis un bouquin qui n'est pas sur ma Kindle, et moi j'adore prendre des notes en permanence dans une Kindle quand je lis et tout. Et là, comme c'est un bouquin normal, je peux pas prendre des notes. Alors du coup, je peux utiliser ça pour citer la phrase du bouquin avec la page, et voilà, ce sera bien, ce sera cool.
Il y a quelqu'un qui disait, c'est adapté si tu sais ce que tu vas écrire. Mais en fait, même pas forcément. Parce qu'effectivement, moi, j'ai remarqué quand tu es en train de parler, parfois tu t'arrêtes au milieu, tu bugs. C'est pas grave, en fait. Tu continues à maintenir ton truc, tu réfléchis une minute si tu veux.
Ouais.
Il saura te faire ta transcription nickel à la fin. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau.
Mais c'est vrai que dans les premières fois, c'est stressant. Tu dis, tu veux pas laisser. Tu sais, t'es stressé. Mais en fait, quand tu prends le pli, tu sais que tu peux prendre ta pause. T'es pas obligé de mettre des E ou quoi que ce soit. Et il capte trop. C'est trop bien. C'est trop bien aujourd'hui.
Parce qu'à une certaine époque, les transcriptions marchaient comme ça. Si tu t'arrêtais 3 secondes, il était en panique.
Ouais.
D'où le génie de cette petite interface push to talk. Qui résout tous ces problèmes.
Il y a quelqu'un qui a dit « Vous venez d'augmenter la rapidité de mon workflow, ça sera implémenté dans ma boîte dès demain. » C'est limite un peu flippant, tu es en mode « Wow, calmez-vous
!» Ben non, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est le genre d'outil qui devrait être par défaut maintenant dans à peu près toutes les machines. Quoi.
Les iPhones, ils ont un truc comme ça, mais ça marche beaucoup moins bien.
Ah ben,
donc le jour où ça sera natif dans l'iPhone, tout le monde l'aura.
Ça n'aura rien à voir. Je crois que la génération est bientôt finie, mais je vous propose de faire juste mon application suivante et on ira voir ça juste après. La suivante, elle s'appelle Oliama. Peut-être que vous en avez entendu parler.
Oui.
Liama, ce mot vous dit quelque chose si vous suivez un petit peu l'intelligence artificielle depuis récemment. C'est le modèle de Meta, un des premiers concurrents de ChatGPT qu'on avait couvert, qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit il y a quelques mois. Depuis, il y a eu un florilège de nouveaux modèles. C'est très intéressant. La plupart d'entre vous, je pense, sont perdus parce qu'il y a trop de choses, trop de nouveautés tout le temps et vous en avez marre d'avoir ce train qui avance sans vous. Dites-vous que Oliama, c'est l'appli parfaite, si vous avez un Mac, pour gérer vos modèles, justement. Pour enlever toute la friction sur le fait d'installer un nouveau modèle et de l'utiliser. Pourquoi ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le génie de Oliama, c'est pas que c'est une application sur Mac facile à installer, c'est surtout qu'ils ont inventé une syntaxe. Si vous êtes développeur, vous connaissez probablement Docker, par exemple. C'est un moyen de créer des sortes de machines virtuelles, des conteneurs de manière déterministe. Ça, c'est hyper important. Ça permet à n'importe qui, dans un fichier, de décrire un projet qui va avoir un certain nombre de dépendances, etc. Je ne vais pas me lancer dans l'explication de comment marche Docker. Mais dites-vous que le génie d'Oliama, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle syntaxe pour décrire un modèle, une IA qui tourne en local. Et donc ça, c'est un peu une fondation qui leur permet après d'avoir une gestion des modèles comme si c'était des dépendances de développeurs. Alors, si vous n'êtes pas développeur, vous dites...
Comme des packages.
Voilà, comme des packages, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas développeur, vous vous demandez bien à quoi ça peut servir. Eh bien, en une simple ligne de commande, on fait Oliama run Mistral, par exemple, dans son terminal, et hop, on se retrouve à parler avec Mistral. C'est tout. Et c'est lui qui s'est chargé automatiquement d'aller télécharger le modèle dans sa dernière version, de l'installer en local, et... De garder un serveur toujours ouvert derrière. Vous pouvez comme ça avoir accès à une liste très très longue de modèles qui sont mis à jour constamment. Et le plus intéressant, c'est que c'est un service qui tourne toujours en tâche de fond. Si vous avez testé quelques applications pour utiliser des ChatGPT locaux, comme il y a Studio LM, il y en a plusieurs des comme ça qui sont très bien. Ils ont tous un problème, c'est qu'ils réinventent tous la roue. C'est-à-dire qu'ils ils intègrent tous leur propre système d'inférence, leur propre système de téléchargement de modèles. En fait, on est dans une nouvelle ère où on va avoir plein d'applis qui vont utiliser des IA locales. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Et on est tous en train de réinventer la roue constamment et dans chaque appli, de télécharger des clones de modèles et d'avoir des copies de la petite brique qui fait les inférences. Et ça, c'est du gâchis, c'est hyper dommage. Et surtout, ça ne permet, c'est pas du tout pérenne comme système. Oliama, ils arrivent et disent, non mais on arrête tout ça maintenant. Maintenant, tout passe par nous. En gros, c'est ça. Tout passe par nous. On n'est plus une brique que tu intègres dans toi, ta petite appli de développeur qui utilise des IA locales. On est un système centralisé, un service qui tourne constamment sur ta machine et avec qui toutes les autres applis peuvent discuter. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. C'est ouais. Plutôt que chacun ait sa propre brique, tu as un service qui tourne constamment. Tu le vois dans ta petite barre de menu sur ton Mac, qui tourne constamment, qui gère les mises à jour de modèles, qui gère cette maintenance-là. Et toutes les autres applis se mettent à discuter avec. Et c'est en train de prendre. C'est-à-dire que tous les nouveaux modèles un peu cool se mettent à utiliser Oliama parce que c'est une fondation super robuste. C'est pas un truc Python un peu cracra, c'est fait en Go. Enfin voilà, le truc est propre.
Stylé.
Et c'est une bonne fondation pour tous les développeurs et les utilisateurs qui veulent utiliser de l'IA en local. Vous allez me dire, ok, c'est cool ton truc, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce qu'on est bien content que les prochaines applis soient cool, mais dès maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que je vous propose, c'est de combiner Oliama avec Recast, par exemple. Recast, c'est une nouvelle appli de ma liste, c'est simplement un launcher, une alternative à la barre de recherche sur macOS. Encore une fois, vous allez penser que cette barre de recherche sur Mac marche très bien, mais il faut vraiment voir Recast comme une tour de contrôle qui vous permet d'interagir avec toutes vos applications et de lier des raccourcis clavier, de développer des modules personnalisés sur votre Mac. En fait, c'est l'outil de productivité ultime des gens qui veulent être plus fast sur Mac, tout simplement. C'est dur à expliquer ce que vous
faites. Mais alors, moi, je l'utilise depuis très longtemps aussi. C'est incroyable. Et il faut ne pas faire une erreur, c'est vouloir tout comprendre à Recast au premier coup.
Ouais.
Il faut se laisser surprendre, tu vas pouvoir potentiellement découvrir des fonctionnalités dans un an et c'est très bien. Parce que si tu cherches à tout comprendre au début, tu vas être submergé. Mais en fait, c'est trop bien. Par exemple, moi pour écrire mon mail, je peux noter un @ et ça me met la première adresse mail, ça me remplit automatiquement. Oui. En fait, ça peut te faire des raccourcis comme ça.
Pour
ça,
ceux qui connaissent Alfred, c'est une alternative moderne qui résout pas mal de problèmes qu'il y avait. Et effectivement, tu as des snippets comme ça où tu peux gagner du temps.
Tes fenêtres, tu peux les mettre où tu veux en un raccourci.
Tu as un historique de ton presse-papier. Donc, si tu as copié-collé un truc il y a 3 jours...
C'est incroyable.
Hop, tu recherches dans ta liste et tu retrouves... Ça paraît peut-être futile, mais je ne sais pas comment je m'en passerai maintenant.
Oh, pareil, et tu peux lancer des scripts. Et en vrai, c'est trop. Et peut-être que ça fait un lien avec ce que tu vas dire.
Un peu.
Parce que cette fonctionnalité est incroyable.
C'est ça. C'est que si vous êtes du genre à vous créer des petites automatisations perso, etc., mais que vous avez envie d'une belle interface par-dessus, et ben plutôt que de pareil réinventer la roue, vous utilisez Recast et ça vous fait une interface parfaite sur toutes vos automatisations, vos scripts. Et potentiellement, si vous voulez automatiser des choses avec des modèles locaux, vous pouvez combiner Recast et Oliama. Et là, ça devient dingue. Je vous ai fait une petite vidéo de démonstration avec 2 exemples vraiment hyper simples. Premier exemple, imaginez, vous avez envie de faire rédiger des mails sans avoir à vous emmerder. Par exemple, vous êtes en retard pour vos clients ou vous êtes en retard au travail, eh ben, vous avez besoin d'écrire un mail formel, mais vous, vous avez un peu la flemme et vous savez que maintenant, ça se fait très bien. Eh ben, quel est le moyen le plus rapide de faire ça avec son clavier ? Outre ouvrir une nouvelle fenêtre ChatGPT, écrire le truc, la requête, se souvenir de comment il faudra lui demander cette question, etc. Et bien, ce que vous créez, c'est un raccourci Recast qui va appeler Oliama sur un modèle local pour vous fournir une réponse et la mettre dans votre presse-papier. C'est de la magie. Franchement, oui. c'est de la magie. Et mon cerveau est trop petit pour imaginer tout ce qui est possible de faire avec ça. Et si vous avez des workflows, des idées, justement, donnez-les-nous parce que c'est un bac à sable de fou. La première démo que je vous montre, donc, c'est... on a une petite vidéo, si tu arrives à la charger. Excellent. C'est le process. Donc ça, c'est la fenêtre de Recast dans laquelle on peut créer une commande custom. C'est la première fonction que tu peux démarrer. Vas-y. Et donc, c'est là où on va pouvoir sélectionner le modèle local qu'on veut utiliser, ainsi que, voilà, un template. J'aimerais que tu rédiges un mail avec un ton formel qui dit ceci, deux points. Qui explique ceci. C'est tout. Voilà, ça m'a pris 4 secondes à créer, ce qui est quand même un argument important. Et je lui demande juste de signer mon mail avec une petite signature des familles. Quel CEO Micorp. Une fois que c'est fait, on crée l'extension. Donc là, je viens de faire un commande entrée et donc ça a créé le raccourci que j'appelle rédige un mail please.
Donc là, en fait, tu paramètres ta commande pour pouvoir l'utiliser plus tard.
Exactement.
Parce que j'ai pas compris au début.
Ça, c'est le paramétrage de la commande. Une fois que c'est fait, je peux à tout moment l'invoquer simplement dans Recast en 4 secondes. Et par exemple, je vais lui demander, vas-y, on imagine que je suis, par exemple, dans Gmail, j'écris « je suis en retard, boss », je fais « copier », non, j'ai même pas besoin de le faire, pardon, je répète. J'écris « je suis en retard, boss », je sélectionne le texte, j'invoque « rédige-moi un mail », et pam, il se met à me rédiger un long mail formel pour expliquer à mon entreprise pourquoi je suis en retard. Ouais, là, il y va. Là, il faut dire qu'il est quand même bien verbeux.
T'as fait quel modèle,
nous travaillons actuellement avec toutes nos ressources pour résoudre ce problème et réduire le temps de retard. Non, mais tu, le temps que ça m'aurait pris de rédiger cette excuse...
Oui. Ah bah là, tu te fais virer si t'envoies un mail aussi long à ton boss, alors que t'es en retard, t'es foutu. Non,
évidemment, ce template est perfectible. Vous avez vu, il fait qu'une phrase. Il suffirait de l'améliorer un petit peu. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que c'est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire que toutes les prochaines fois où tu pourras en avoir besoin, t'as plus à te souvenir de quel était ton template. Et voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple beaucoup plus simple qui va en plus vous parler, c'est un système pour corriger vos fautes d'orthographe automatiquement. Par exemple, vous rédigez une phrase pleine de fautes d'orthographe. Pareil, juste vous la sélectionnez, raccourci, recast, corrige-moi mes fautes d'orthographe. Tu peux avancer un peu, vas-y. Tu peux aller loin. Et hop. Alors là, pareil, il m'a mis un petit... vous avez, c'est allé trop vite, vous n'avez pas vu. La phrase, c'était... j'ai oublié. Voilà, la phrase c'était juste plein de fautes. Il me l'a changé en plein de défauts, en rajoutant le petit S, etc. Là, pareil, il se trouve que mon prompt n'est pas très optimisé. Il faudrait que je lui demande de sortir uniquement mon résultat. Bref, je referai l'ILU pour la VOD. Mais même chose, en 4 secondes, vous pouvez même le binder sur un raccourci clavier et faire en sorte que. Voilà, vous êtes en train de rédiger un mail, vous faites sélection, raccourci clavier, toutes vos fautes sont corrigées avec une vraie intelligence, c'est pas un autocorrecteur de merde. Ouais. Tout ça sans aucune friction, en local, sans internet, c'est quand même de la magie noire, non ?
Oui, ouais. De ouf.
Franchement, c'est très très cool.
Vous êtes en train de changer un petit peu ma perception de Recast parce que j'ai installé Recast, mais moi, mon seul retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que ça me fait chier tous les jours.
Ah ouais ?
Pourquoi ? Parce que moi... J'entends toute la régie crier, etc. Parce qu'en fait, moi, un des trucs que j'utilisais le plus avant, c'est la recherche, Spotlight. Rechercher un document dans mon ordinateur, je faisais Command Space, ça m'ouvrait le truc qu'il y avait avant Recast, quoi.
Ouais,
et je tape directement mon nom de fichier et ça me mettait la liste de mes fichiers. Et aujourd'hui, il faut que je tape Files d'abord.
Tu peux le paramétrer, ça.
Exactement. Tu peux faire un raccourci qui ouvre Files direct, tu vois, par exemple.
Mais tu sais que par exemple, fut un temps dans l'émission quand je changeais les titres de l'émission en live en fonction du sujet, et ben je m'étais fait un truc Recast où je mettais title, tab et je notais le nouveau titre. Et parfois, je l'avais même préchargé et tout. En fait, tu peux faire plein de trucs. Et ça appelait un script, en fait, derrière.
C'est sûr, c'est puissant.
Et alors, et pour te... Enfin, je sais pas si tu veux un retour d'expérience sur Olema.
Ouais.
Ou tu veux qu'on enchaîne.
Non, voilà.
J'ai testé Olema, pour le coup. Parce que ça a l'avantage, contrairement à Studio LM, je crois, d'être justement supporté sur les Mac Intel.
Ah oui.
Il nécessite pas un Mac M1. Et j'avais essayé avec Mistral. Donc du coup, il faut dire aux gens que c'est de la ligne de commande.
Ouais.
Sauf si vous l'intégrez à Recast.
Mais c'est ça, parce que moi, je le vois pas du tout comme
un truc
que tu utilises direct en
général. Mais moi, je l'avais essayé comme ça. Et ça fonctionne, mais c'est quand même très lent. Donc ça fonctionne, enfin, je l'utilise pas au quotidien, ça fonctionne mal, parce que c'est très très lent.
Mais on va te... Tu sais qu'on a des Mac Mini M1 qui dorment. Il faudrait juste le déplacer.
Pourquoi il a encore un Intel depuis tout à l'heure?
Parce que j'en ai pas besoin. Et juste ces deux petits jours-là, je dis... Ah, j'ai peut-être envie d'avoir un M1, mais j'en avais pas besoin. Mon...
Après cette vidéo, tu vas changer.
Mais du coup, ça m'a c'est trop bien.
Je comprends. Je vous propose de voir les résultats quand même.
Alors, le moment
est-ce que on a eu des TikTok viraux?
Okay.
Est-ce que grâce à cet outil, nous allons faire un buzz interplanétaire? C'est maintenant les résultats. Smartphone DIY à l'aide de composants open source. Ok, donc il a bien compris le sujet. Et là, il nous met un score de viralité de 80 sur 100. Est-ce que c'est bien ou pas, Benjamin?
Ouais, 80, c'est pas mal, surtout qu'en général, il dit « ouais, c'est en français », donc déjà, de base, ton score de viralité, il descend un petit peu. Comme t'es pas américain, t'as ça qui descend un peu.
Ah, c'est logique.
Donc c'est pas mal, c'est un bon score. Par contre, à l'heure des charges, vous avez un cadrage un peu vraiment spécial pour vos trucs, donc là, son cadrage, il l'a fait parce qu'ils ont des cadrages automatiques qui marchent bien la majeure partie du temps, mais vous, là, avec votre layout, il y a moyen... Ben voyons voir ce que ça donne.
Ouais.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Ça, c'est un truc qui est fait avec des composants qui peuvent s'acheter sur Internet, le projet qui est open source. Donc là, théoriquement, moi, de chez moi, si j'ai une imprimante 3D et que j'achète les bons composants, je peux refaire le téléphone.
Exactement. Et normalement, il est chargé. Voilà, on va voir si jamais il va démarrer.
Trop stylé. Wow. Franchement,
c'est juste très zoomé.
L'interface est très cool.
Voilà, il y a... Franchement, c'est joli. Il faut taper avec des ongles parce que c'est un écran... Ongles, parce que c'est un écran résistif. Et oui, malheureusement...
Mais alors, comment on revient en
budget,
arrière
hein, seulement.
Donc c'est vraiment beaucoup moins cher.
Bah, je croyais... Mais dans le futur, dans la suite de l'histoire, ça change.
On va y arriver. On va y arriver.
C'est trop fort. Bon, là, je l'aurais peut-être coupé un peu avant la fin.
Mais regarde, justement.
Attends, c'était pas encore fini. Hein.
Non, mais clique sur Edit Export maintenant. Edit là. Et ici, regarde, c'est mes potos, il faut que je refasse une belle démo. Là, tu vas dans vidéo, en fait, le tag vidéo, là, en haut à gauche, voilà, ici. Et là, du coup, Mike, tu peux rajouter du texte au-dessus ou tu peux en enlever en dessous, en fait.
Ah ouais, comme des scripts.
Tu viens retravailler un petit peu ton script.
Mais sur le texte directement.
Ouais, là,
ça,
sur le script.
Trop bien.
Si tu sélectionnes du texte au-dessus et que tu fais clic droit ou je sais pas quoi. Non, pas clic droit, juste tu cliques sur le texte que tu as sélectionné.
Exactement.
Il va te proposer de faire add, par exemple, tu vois. En bas, tu as une timeline, tu peux agrandir ou pas truc.
Je pense que tu dois sélectionner un texte et faire add dessus.
Et sinon, après, si tu vois, si t'es pas satisfait des cadrages qu'il a fait, tu vas dans l'onglet crop là-haut. Là. Pourquoi je gueule?
Il m'entend très bien. Il t'entend.
Et en fait, là, pour chaque tronçon en bas, regarde. Alors, pour chaque tronçon, t'as tes crops et tu peux choisir. Il faut que j'arrête de gueuler, je suis fou.
J'ai envie que tu lances une chaîne de tuto.
Et en fait, tu peux déplacer les petits points.
Arrête de me crier dessus, Benjamin, je t'entends très bien.
Je suis un monstre. Alors, tu peux déplacer les petits points là, que tu as dans la vignette en haut à gauche. Et ça, c'est ton cadrage, en fait.
Oh. Voilà.
Donc, tu peux...
What the fuck?
Wow.
Tu peux retravailler chaque plan.
Mais...
Oh.
C'est trop malin.
Par exemple, je l'aurais dézoomé un peu, ouais.
C'est trop malin. Mais c'est trop malin.
Ils ont très très bien bossé. Ils ont très bien bossé, les gars.
Et non mais et surtout pour préciser, le choix des phrases, de la première phrase du TikTok, c'est le moment le plus important. C'est ça qui fait tout dans cet algorithme fou. Ouais. C'est super bien pensé, je trouve, comme début d'histoire. En sachant que nos vidéos s'y prêtent pas forcément, parce que souvent on fait des longs tunnels, des discussions qui évoquent un même sujet pendant très longtemps. Et j'avoue, je suis assez épaté du résultat.
C'est bluffant.
On va le publier sur TikTok et on verra. Tiens, on verra. Non, mais on verra si ça marche.
Moi, ce que je dis de mon expérience perso du truc, malgré tout, il y a toujours un petit peu de retravail sur le premier jet qui te file, mais ça te simplifie déjà tellement la tâche de base qu'après, t'as 10 minutes par TikTok. 10 minutes pour faire un TikTok, ça va.
Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne envie de poster des TikTok. Mode, ok, si c'est juste,
m'amuser
avec une petite interface et tout, et faire en sorte que ce soit cool, tu les prends les 10 minutes. Alors que faire le processus de créer des TikTok...
Question intéressante du chat, tu dirais que ça mettrait combien de temps de faire ça, normalement, pour un monteur ou pour toi?
Ah, pour un monteur?
Ou pour toi?
Pour moi, mais c'est un job vraiment infernal, parce que déjà, il faut que je me retape une heure de live, déjà, pour essayer et annoter, pour dire, ah là, j'ai dit un truc un peu intéressant. Déjà, horriblement chiant.
Ok, après
bah, ensuite, isoler 10 passages qui te semblent ok. Ensuite, faire le cadrage et le coupage, le cleaning de tous les E et machin, tu clean et tout. Après, foutre les sous-titres là-dessus, c'est d'une chianteur absolue. C'est peut-être le passage le plus chiant.
Et les petites couleurs sur les petits mots.
C'est trop chiant, c'est trop chiant. Et non, une éternité. Générer un seul TikTok comme ça, sans ces tools-là, ça peut te prendre une heure, quoi.
En fait, je pense qu'il y a une grosse différence entre s'il n'y a pas de monteur de base du tout, ou s'il y a un monteur, par exemple, qui monte l'intégralité de ton podcast. En fait, rajoute, par exemple, je sais que pour les actus du jour de Hugo Décrypte, à une époque, je ne sais plus comment ils font aujourd'hui, mais la personne qui montait les actus du jour, faisait à la fin, il faisait un ou deux TikTok. Et en fait, quand tu as déjà monté les actus du jour, ça te rajoute quoi? 20 minutes, peut-être, oui, quand même, pas 15 minutes.
Il avait quand même le seum de mettre les sous-titres.
Ça,
c'est universel.
Oui, mais du coup, je pense que ça dépend vachement de s'il y a de base un monteur sur l'intégralité du projet ou pas.
Sans plus attendre.
Alors attends deux secondes parce que juste je regardais le deuxième là, mais c'est trop fort. Hein. La première phrase, elle te hook tout de suite.
Mais oui. Attends, c'était quoi déjà la première phrase?
Il parle du deuxième.
Ah, du deuxième. Ok, vas-y. Plaisir.
Oui, t'as
raison. Nous, on revient à Gabriel quand il avait 13 ans.
Depuis tout petit, en tout cas, j'ai toujours été intéressé par la technologie.
C'est pas mal. C'est pas trop fort.
C'est pas mal.
Alors moi, perso, là, celui-là, je le rééditerai. Je sortirai le passage de
le
code.
Début, il faut le sortir.
En fait, je commencerai là où le gars Gabriel parle en fait. Parce qu'on s'en fout que mi-code, tu fasses une passe
dans les faits, effectivement. Ça
pour les premières secondes du TikTok, c'est pas très rentable.
Vous avez des petits cours de...
Il y a des cours de stratégie TikTok en direct. Ok.
Désolé.
Sans plus attendre, je vous propose de passer à l'outil suivant. C'est sûr que vous avez déjà eu besoin d'un truc de ce genre par le passé et vous êtes demandé mais où est-ce, quel truc je pourrais utiliser, pourquoi il y a des paywalls partout pour faire ça alors que ça paraît pas si compliqué, c'est de retirer le fond d'une photo ou d'une image. Vous connaissez tous Remove BG par exemple ou des trucs comme ça. Ouais. C'est que des services, ou alors Photoshop évidemment sait faire ça, c'est que des services qui vous proposent d'enlever le fond d'une image, de faire un détourage de qualité. Avant c'était horrible, maintenant avec l'IA c'est moins horrible. Mais j'ai pas compris pourquoi, pendant encore des années, il y avait beaucoup de services, mais ils étaient tous un peu complexes et ils te faisaient souvent très payer si tu voulais avoir de la bonne résolution. Eh bien, j'ai une annonce à vous faire, si vous êtes concerné. C'est que depuis à peine quelques jours, est sorti un modèle open source qui fait du détourage hyper quali. Donc, c'est pas Adobe, c'est pas des grosses boîtes. Mais un modèle ouvert et gratuit est sorti qui permet de faire du détourage super quali. Et tout le monde peut l'utiliser, là, de chez vous, directement dans votre navigateur, avec cette petite démonstration de Hugging Face. Tu peux directement aller cliquer sur le...
J'avoue, c'est clean.
C'est eux qui l'ont fait, qui l'ont développé ou c'est juste qu'il est dispo sur Hugging Face?
Non, il est dispo via... Tu sais, c'est les interfaces Gradio, machin. Mais non, c'est fait par Briai.
Ah, ok.
Et ils n'en sont pas à leur coulisses, ils ont fait pas mal d'autres modèles. Mais ce n'est pas le plus impressionnant dans le sens où c'est de l'édition d'image, quoi, ça fait longtemps qu'on sait le faire. Mais c'est quand même bluffant par la qualité du résultat. Donc là, vous pouvez voir que les petites ombres, les petits cheveux, tout ça est super bien détouré. Et je répète, c'est open source. Vous pouvez l'intégrer dans n'importe lequel de vos produits si vous êtes... Ouais. Si vous voulez juste l'utiliser, vous pouvez prendre cette interface-là directement. Et j'étais heureux, j'ai vu ça, j'étais en mode, génial. Encore une nouvelle brique dans l'arsenal open source qu'on a tous à notre dispo maintenant. C'est dingue.
Et qu'on utilise et qu'on pille pour créer des sas.
Ouais. Et peut-être que tu vas faire de l'open source dans un an ou deux grâce à tout l'argent que tu auras gagné dans ton sas.
Bien sûr.
Je ne sais pas.
Bien sûr.
Mais souvent, c'est des histoires comme ça, hein. C'est des business qui marchent plutôt bien et qui se mettent à se dire, bon, là, cette brique-là, ok, maintenant on la met open source. Ouais. Et ça fait très plaisir. C'est tout. Voilà.
C'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin
exactement,
de...
Il n'y a rien d'autre à expliquer. Juste, ça fait quelque chose dont tout le monde a besoin régulièrement. Ouais. Ça le fait bien, ça le fait potentiellement en local. Faut que je vérifie, mais je crois que ça peut tourner sur du GPU de relativement petite taille. Et juste, ça fait trop plaisir. Mon projet suivant, pour le coup, est bien plus complexe. Là, vous allez voir, on commence à rentrer dans des outils qui vont seulement intéresser les plus motivés d'entre vous et ceux qui ont des grosses, grosses envies d'automatisation. Okay ? Peut-être que vous avez déjà vu des interfaces nodales qui permettent de créer des sortes de graphes logiques entre différents nœuds. Okay, bon, c'est la fameuse programmation visuelle. Je vous avais parlé de N8N à une certaine époque, mais c'est tous ces systèmes qui permettent à n'importe qui de programmer avec une interface graphique. C'est plus joli. Moi, je comprends, ça permet d'aller un peu plus vite si on ne sait pas développer, etc. Même si on sait, d'ailleurs. Et depuis un certain temps, des interfaces de ce type-là existent pour l'IA. Et en gros, la promesse, c'est de vous dire... On te file une brique ChatGPT, une brique DALI, une brique de détection d'objets, une brique de transcription. Et avec tout ça, c'est un bac à sable, tu fais ce que tu veux, tu peux connecter tous ces nœuds ensemble pour automatiser ton travail et partir aux Bahamas.
Et faire une vidéo comment le no-code m'a permis de gagner
exactement.
sur YouTube. 40 000 euros par mois.
Exactement. Le problème, spoiler, la plupart de ces outils sont nuls. En tout cas, moi, je ne les aime pas. Non, mais je vais m'expliquer, je vais défendre ma tech. Cool. Mais typiquement, des long flows ou des choses comme ça, on peut vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont toujours des pages, des landing pages super sexy, ces gens. Ils ont toujours des interfaces qui sont très léchées. Et pourtant, moi, je défends que ça ne me satisfait pas. Pourquoi ? Parce qu'en général, on va devoir rentrer un petit peu dans la technique, mais vous allez voir, c'est intéressant. Ils sont basés sur des gros, gros frameworks, comme on appelle. C'est des librairies pour développeurs qui sont en Python et qui sont un peu tentaculaires, qui essayent de tout faire en même temps, comme LangChain, par exemple, pour ne pas les mentionner. C'est très bien, c'est un bon bac à sable. Mais le gros problème de créer des systèmes comme ça, c'est que c'est là où vous allez passer du temps, vous allez travailler, vous allez créer des automatisations qui ont potentiellement beaucoup de valeur pour vous, pour votre travail, pour votre entreprise, ou juste pour vous, pour gérer votre vie. Et donc, vous avez envie de construire sur du rock, quoi. Pas sur un truc un peu pété qui risque d'exploser à la prochaine mise à jour ou qui marche une fois sur trois. Et le problème de la plupart de ces outils, c'est que du coup, ils sont basés sur Python. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que Python a été utilisé dans l'IA, est devenu le langage par défaut de l'IA, parce qu'il est extrêmement compréhensible et facile à prendre en main. C'est que ça ressemble rien ne ressemble plus à de l'anglais que Python finalement. Et donc pour une audience de chercheurs en intelligence artificielle qui ne sont pas des développeurs, et ben c'est parfait pour qu'ils puissent manipuler les concepts qu'ils connaissent, mathématiques ou de recherche, sans avoir la lourdeur des langages plus bas niveau. Et donc pour faire tourner des modèles d'IA sur des serveurs dans le cloud, par exemple, ça ne pose pas vraiment de problème. On sait gérer cette complexité de déployer des modèles de Python, des choses comme ça. Mais, pour l'ère d'aujourd'hui, qui, je le répète, est de l'IA locale, ça n'est pas adapté du tout. Python n'est pas du tout fait pour être déployé sur des appareils en local à grande échelle. Ça n'a pas vraiment été pensé pour ça. Il y a des stratégies qui permettent de, là typiquement dans les applis qu'on a citées, ils auraient pu essayer de tordre le langage, on va dire, d'utiliser des technos spécifiques genre, je ne sais plus comment elle s'appelle, pinstall ou des choses comme ça, qui permettent voilà, de faire une sorte de gros sac où on met Python, littéralement le langage entier dedans, pas le serpent, et votre code, et les trucs, c'est dégueulasse, c'est possible mais c'est dégueulasse, il ne faut pas faire ça. Et donc, on se retrouve dans une situation terrible qui doit vous concerner si vous êtes intéressé par l'IA et l'IA locale. C'est qu'il y a une ébullition, il y a plein de nouveaux modèles partout. Tout le monde a des idées d'applis, de choses à faire. Mais on n'a pas du tout la base, l'architecture qui permet de proprement déployer des applis de ce genre à grande échelle sur des machines de façon optimisée et propre. Il y a un vrai manque à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu veux commencer en tant que développeur à créer une appli révolutionnaire pour Mac ou pas, ou sur Windows ou sur Linux pour révolutionner je ne sais pas quoi avec de l'IA locale. tu es un peu niqué et tu peux pas utiliser des applications comme ça, des systèmes de graphes qui vont te faciliter la vie. Cette longue introduction était importante pour vous présenter le projet du jour. Floneum, ça s'appelle. Okay. Alors, Floneum, vous allez voir, attention, je vous préviens, ça ne paye pas de mine. Donc, l'interface est immonde. C'est ça.
Oh, attendez à pire. Tu l'as tellement...
Non, mais objectivement, l'interface est assez infâme à utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, on garde ce principe de graphe à gauche sur lesquels on peut éditer des entrées, des sorties, des choses comme ça. Donc, par exemple, tu peux avoir demandé à un Mistral de générer du texte en local. Après, tu peux demander de faire une recherche sur Google, toujours en local, c'est-à-dire que c'est vraiment le logiciel qui fait la recherche en arrière-plan. Mmh. Tu peux demander d'ouvrir Chrome, par exemple, et de charger une page si tu as besoin de faire ça. Tu peux demander d'écouter un son et de faire de la transcription. Tu peux demander d'analyser une image. Bref, tous les fondamentaux de l'IA moderne. Et ce qui est... Pourquoi ça, c'est différent de tout le reste que je vous ai montré? Et pourquoi, en réalité, c'est pas cette interface qui est le plus important, mais c'est ce qu'il y a derrière qui, je pense, pourrait intéresser énormément de développeurs par la suite. C'est que tout ça est développé en Rust.
Ah, la passion du Rust, voilà, qui revient.
Tout ça donc se passe de manière 100% locale avec, je vous l'ai dit, des technologies faites pour être utilisées sur des appareils de tout un chacun de façon optimisée. Il n'y a pas forcément besoin d'un GPU, donc vous pouvez comme ça publier votre application pour vraiment tout le monde, même sur mobile potentiellement. Il y a un écosystème de plugins qui va avec cette interface de graph. Donc tu vas, ces petits modules, demain toi tu peux peut-être inventer un nouveau module qui permet de, avec une IA, de détecter s'il y a un sponsor dans une vidéo par exemple. Tu pourrais publier un module que tous les utilisateurs de Floneum pourraient intégrer dans leur graph. Je vous passe les détails, mais si vous êtes un développeur sur ce genre de techno, il y a tout ce qu'il vous faut, des systèmes de base de données qui vous permettent d'ingérer des articles, des PDF, des choses comme ça. Bref, c'est un bac à sable assez complet. Je ne vais pas vous mentir, c'est une alpha. C'est vraiment une alpha de alpha. Ne pensez pas pouvoir l'utiliser là demain. C'est un truc à surveiller, à se mettre dans les favoris et à voir dans 6 mois à quoi ça va ressembler. Parce que ce qui est le plus intéressant dans le projet, ce n'est pas cette interface par-dessus, ouais, c'est tout ce qu'il y a derrière, en gros. C'est toutes les briques qui sont utilisables par tous les développeurs et qui mâchent le travail de l'IA. C'est aussi bête que ça, mais demain, là, vous êtes un développeur Rust ou autre, d'ailleurs. Vous voulez intégrer des fonctionnalités locales d'IA, utilisez sa librairie à lui et vous allez gagner un temps fou. Et c'est clean, et c'est pas du Python, et ça fait plaisir.
Très très chouette.
Cool, hein.
Ça m'a fait beaucoup rire. À un moment, j'ai regardé le chat et j'ai fait Rust incroyable et tout. Je me suis rappelé qu'on était le jour de la Saint-Valentin. Je dis, on a quand même une belle audience de geeks. Ils se sont tous exclamés en mode waouh, il a dit Rust incroyable. Ça m'a fait un peu rire. Je vous cache pas. Trop bien.
La dernière appli, c'est une appli bonus. Je sais pas si elle va être gardée, honnêtement. Je sais pas.
Parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout à 4, là, si ? Je sais plus.
Non, pas du tout. Là, on est monté à dans les bonus, là.
Ouais, là, on passe au bonus. On était 4, là. Là, c'est 4. Ouais.
Okay.
Il me semble.
On verra si on la garde.
Ouais.
C'est une appli qui monte encore en complexité, qui n'est pour le coup pas un truc que tu fais tourner en local, a priori. Je m'explique. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'attendre GPT-5, patiemment, en mode... Là, c'est cool, mais il n'y a pas eu de nouveauté depuis environ une semaine, quand même. Et donc, on attend une nouvelle révolution pour moins s'ennuyer. Peut-être vous êtes dans cette situation et que vous trouvez que voilà, les LLM ne sont pas au niveau pour telle ou telle tâche que vous voudriez automatiser. Et bien, quand vous arrivez à ce moment-là, c'est qu'il faut commencer à faire des fine-tunes. Là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais peut-être que vous vous dites que il faut des millions pour faire du fine-tuning. Donc, pour prendre un modèle et continuer à l'entraîner sur vos propres données pour qu'il devienne encore plus fort. Vous pensez peut-être qu'il faut des millions, et en fait, pas forcément. Il n'y a pas nécessairement besoin de GPU immense, notamment grâce à une technique que les gens qui font du stable diffusion ou des choses comme ça connaissent très bien. Ça s'appelle le QLORA. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est juste le nom de la technologie. QLORA, ça permet... sur un GPU de petite taille, de faire une amélioration, un fine-tuning de n'importe quel modèle avec ses propres données. Vous vous dites, truc de gros barbu, a priori, ça va être super compliqué à mettre en place. Si vous avez regardé un peu côté Stable Diffusion et tout, vous savez que globalement, c'est un monde dans lequel on peut se perdre. C'est très, très, très complexe à prendre en main, les outils, etc. Le projet dont je vais vous parler là maintenant, il vous prend vraiment par la main dès le début. C'est-à-dire que là, vous maintenant, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Vous n'êtes pas des ingénieurs en intelligence artificielle. Et pourtant, grâce à ça, grâce à Unsloth, puisque c'est son nom, vous allez pouvoir partir de zéro et créer votre propre modèle fine-tuné sur vos données. J'ai pas besoin de vous expliquer l'intérêt de ça. Ça permet, et beaucoup d'entreprises constatent que parfois fine-tuner un petit modèle sur des tâches précises leur donne les mêmes performances que GPT-4. Ouais. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de l'intérêt, il est évident, mais il y a une barrière à l'entrée, il y a une complexité qui, avec ce projet, est complètement enlevée. Mmh. Ils vous prennent vraiment par la main, même si vous y connaissez rien, et vont vous expliquer comment voilà, générer des données qui ont le bon format pour entraîner votre propre IA. Ils vous ont préparé des Google Collab tout près, donc c'est un système de Google qui permet de faire tourner du code sur des GPU que vous pouvez louer facilement, sans même avoir d'ordi très puissant. Tout ça est préparé pour vous, balisé, il y a tous les tutos, tout est expliqué. Et surtout, ils ont optimisé à mort le processus de fine-tuning d'apprentissage.
Trop bien.
Il y a eu pas mal de benchmarks qui ont été faits entre le process lambda habituel, les librairies standards pour faire du fine-tuning, et Unsloth, et ils arrivent à faire des x1,5 ou x3 sur les vitesses d'apprentissage, combinés à des besoins en VRAM qui sont beaucoup plus petits. Donc là, on rentre un peu dans le vif, dans le cœur du sujet, mais ce qui vous limite le plus rapidement quand vous faites de l'IA, en fait, c'est la quantité de mémoire de vos GPU, pas nécessairement leur puissance. Parce qu'à la limite, si tu as un GPU qui est un peu moins puissant, tu peux juste attendre plus longtemps, finalement. La mémoire, c'est le truc qui limite tout le monde et qui fait qu'on est tous là à pas pouvoir faire tourner les meilleurs modèles parce qu'on n'a pas des cartes graphiques avec 40 gigas. Donc. Ouais. Et donc, la solution pour ça, c'est d'optimiser en utilisant Unsloth qui vous demandera beaucoup, beaucoup moins de mémoire pour faire un même entraînement. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Je veux voir des modèles créés par la communauté. Je veux voir des Qlora spécialisés à faire des choses variées. Faites des trucs, par exemple, en français. Je trouve qu'il manque pas mal de modèles français. Il y en a des récents qui ont été publiés il y a quelques semaines, dont on n'a pas vraiment parlé actuellement. Mais je trouve que cette barrière à l'entrée a trop longtemps limité le potentiel des modèles fine-tunés. Elle a été levée. Il ne tient qu'à vous maintenant de faire des modèles entraînés sur des tâches précises qui explosent. OpenAI, c'est parti. À vous de jouer.
Mais surtout que, alors tu parlais de l'efficacité d'un bon modèle fine-tuné, il y a aussi le côté confidentiel, où pour en fait quasiment, pour énormément de boîtes, ils ne veulent pas forcément faire fine-tuner ça, en tout cas utiliser un GPT-4, même si c'est un très très gros modèle. Ils veulent fine-tuner leur modèle avec leurs documents, mais principalement pour des raisons confidentielles. Et genre, je sais pas, des rapports super complexes, d'appels à projets, de machins, des trucs vraiment, un métier super précis où tu vas pouvoir lui donner tout ce qu'ils ont fait depuis 10 ans et qu'il va pouvoir te pondre un rapport comme ça. Moi, j'ai déjà eu des gens pas techniques qui m'ont dit « Ok, maintenant que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait l'IA et tout, comment je fais pour fine-tuner mon truc ?» Ça, c'est le futur.
Voilà. Non, mais on est bien d'accord.
C'est facile, mais moi, ça m'évoque des idées. Et,
ouais. Moi, je pense que t'as du potentiel dans ton truc ouais. avec ça.
Ouais, c'est cool. C'est très cool.
Le chat posait une question importante, à savoir le prix. Eh bien, tout ça est parfaitement open source. Vous pouvez le faire tourner sur vos propres machines ou alors sur un Google Collab. Ils ont une version pro, je crois, où ils poussent encore plus loin certaines optimisations.
Ils peuvent le faire tourner pour nous, non ? Est-ce qu'ils ont des cartes graphiques en location ou...
C'est le Unsloth Pro, justement, où ils vont pousser encore les optis et ils vont vous accompagner encore plus loin. Mais honnêtement... Déjà, avec le repo GitHub, tout simplement, avec leur
travail qu'ils ont fait. En vrai, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux tester avant de...
Exactement.
Faire de la merde avec des petits documents comme ça, tu mets comme ça, et puis...
C'est ça. Trop bien. Voilà, c'était 5 projets.
Incroyable.
Merde, si je dis ça, après, on pourra plus...
Il faut que tu le refasses. Faut que tu la doubles avec la version 4, tu sais.
Comme ça, on a le choix. Non, c'est pas grave.
Et on est à 6 en plus.
Il y en a 6 en plus. Ah, voilà, okay. Les nombres.
C'est ça, j'avais l'impression qu'on était à plus, mais je sais pas. Ah ouais. Bon, on s'en fout. Hey, on s'en fout.
Tiens, d'ailleurs, il y a des gens dans le chat qui ont demandé de récapituler tous les noms. Est-ce que tu veux le faire ou je peux le faire? Je les ai tous sous les yeux si tu veux.
Eh bien, il y a Clap, il y a Better Dictation, il y a Oliama, il y a Bria-RMBG, Remove Background, il y a Floneum et il y a Unsloth. Ils sont, sur les noms, ils se sont donnés par contre.
Ouais, c'est vrai.
Il faut être concentré. J'espère que vous avez fait des petites découvertes en tout cas et qu'il y en avait pour tous les goûts. J'essaie de trouver des trucs qui à la fois s'installent en 3 clics sur Mac et qui vont vous aider maintenant et des trucs pour satisfaire les plus déterminés d'entre vous.